France Culture.
Je te déteste, Albert.
C'est ta foutue imagination, Ruth. Tu vis dans un monde imaginaire de plein Richard.
C'est faux. Je te hais.
Motor boating office, a large typing pool in New York City.
Ruth, 19 ans, entre dans la pièce à pas lents et s'assoit derrière son bureau. C'est la nouvelle standardiste. Elle porte une blouse marron avec des faux boutons blancs, une jupe longue en coton noir, des bas en coton noir, des pantoufles en feutre marron. Elle a des cheveux blonds fauves et des yeux bleu-vert. Ce jour-là, elle va attirer l'attention d'un homme de 32 ans, Albert Snyder, rédacteur en chef du magazine. Albert Snyder est un homme attachant, direct, à l'humour salé. Sa camaraderie et son franc-parler ne sont pas ceux d'un intellectuel. Charmeur, cheveux noirs, bouclés, bronzés, il dirige son département artistique avec la précision d'un métronome. William Randolph Hearst sait qu'il est le meilleur rédacteur artistique dans le domaine des magazines. Albert Snyder traverse la pièce d'un pas décidé, le regard fixé sur la jeune fille de 19 ans. Elle rougit. Dans la salle et sourit au dactylo.
South Street Seaport Bench, Day.
Ruth est assise sur un banc, feuilletant lentement un journal.
Art et soumission, un essai de Albert Snyder. Cet esprit rebelle a récemment publié un ouvrage saignant qui fustige les intellectuels et a créé un choc dans le monde littéraire. Hélas, dit Snyder, le mécénat transforme les artistes en animaux de compagnie. L'essai devient une réflexion personnelle sur sa vision des femmes, en vante des orgies comme un esthète, aimée comme une brute. Albert Snyder.
The Chair, d'après Samuel Fuller.
Albert invite Ruth à dîner et l'emmène chez Lucho's, où se retrouvent journalistes, sportifs et célébrités du théâtre. Il la présente à Jess Willard, le grand espoir blanc pour le championnat du monde des poids lourds. Elle devient Cendrillon. Elle déteste toute forme d'alcool, mais sirote du vin avec lui pour savourer un monde qu'elle rêve d'intégrer. Il l'emmène chez lui. Cela ne la surprend pas. Il échoue. Cela ne le surprend pas. Il n'est pas en colère. Son refus a de la classe. Il connaît bien les aguicheuses. Ruth n'est clairement pas une aguicheuse. Cela le détermine encore plus dans sa conquête. Il change de stratégie.
Lu Chao's restaurant, 110 East 14th Street, Irving Place, East Village, Manhattan. Dining room, night.
Restaurant Lucho's, intérieur nu.
It's so busy.
Oh yeah.
Oh, look at her, she's so beautiful. Look at her dress.
Yeah. But this one.
Assis au fond de la salle. Jess Willard, futur champion du monde des poids lourds. Celui qui va rendre son honneur au sportif blanc américain en écrasant Jack Johnson. C'est une force brute, mais une telle élégance dans ses crochets. Allons, ne parlons pas de boxe. Ce soir, c'est la graisse qui m'intéresse.
Et le vin. Cheers.
Europe in flames after Sarajevo. War erupts across the old world.
La guerre éclate. Le 5 août 1915, l'Allemagne bombarde les Anglais en Belgique. Albert bombarde Ruth de fleurs au bureau du Standard.
Verdun under fire, crushing Allied defeat as German offensive breaks through.
Le 23 juin 1916, Verdun. L'Allemagne inflige une lourde défaite aux Alliés. Albert offre à Ruth un solitaire en diamant. Et toujours, il ne la touche pas. Ruth contemple rêveusement la bague à son doigt, assise au Standard, câbles à la main. Son regard se perd. Elle est dans un rêve. Elle vit seule dans une petite chambre. Toute sa vie tourne autour de l'imprévisible Albert. Elle perd sa concentration au travail. Elle confond les appels. Elle est amoureuse. Et ce qui lui arrive lui fait peur. Albert Snyder gagne 5000 dollars en pariant sur Jess Willard, qui bat Black Jack Johnson et devient champion du monde poids lourd.
At Delmonico's oldest restaurant in New York, night.
Il a gagné. Willard a gagné.
Oh.
Et moi aussi. Cheers.
Cheers.
Hello, hello. Toujours en charmante compagnie.
William Randolph Hearst. Vous ici. Permettez-moi de vous présenter mon amie, Ruth Brown.
Enchantée, Miss Brown.
Je suis très impressionnée de rencontrer l'homme qui fabrique l'opinion.
Et félicitations, Hearst, pour votre scoop sur Margaret Sanger.
Merci, Snyder. Le tirage de l'Evening Journal a triplé ce jour-là.
Margaret Sanger est en prison, c'est bien cela.
Bien heureusement, mademoiselle.
En prison pour avoir écrit un livre sur la contraception.
Êtes-vous pour la contraception, Miss Brown?
Non, Mr. Hearst.
Alors, pourquoi ton véhémence?
Parce que si un homme avait écrit ce livre, il n'aurait jamais été en prison.
Vous ne faites pas attention, Albert. Cette jeune personne écrira bientôt des éditoriaux sur l'égalité des sexes.
Il s'éloigne. Le silence retombe.
Je suis désolée. Je vous ai mis mal à l'aise, n'est-ce pas?
Non. Je suis fier de vous.
Comment ça?
Toutes mes stratégies de séduction ont échoué. Je suis amoureux, Ruth. Veux-tu m'épouser?
Quand ça?
Je choisirai soigneusement les invités. La fête de mariage aura lieu dans mon bureau.
Votre bureau?
Il n'y a que les intellos qui organisent le noce dans les hôtels. So, that's yes. Oh, I'm so happy. Waiter. Yeah, another one of them.
Bureau d'Albert, intérieur nu. Des sportifs, des parieurs, des journalistes de Park Row, des écrivains, des politiciens. Tous viennent avec des cadeaux.
Mes chers amis, merci d'être venus ce soir. Mais il est temps que je me retrouve seul avec ma femme.
La lumière est tamisée. Le bureau est silencieux, vidé des invités. Une légère odeur de cigare flotte dans l'air. Albert pose sa cigarette dans le cendrier sur son grand bureau.
Albert places his cigarette in the ashtray on his big desk.
Il remonte à la main le mécanisme du Victrola.
Enrico Caruso begins singing.
Enrico Caruso commence à chanter Vesti la Giubba de l'opéra Pagliacci.
Let me look at your eyes.
Ruth watches him, curious and glowing with wine.
Ruth l'observe, curieuse, grisée par le vin.
Albert approaches her, prizing grace.
Albert s'approche d'elle, souriant. Avec une grâce surprenante, il la soulève dans ses bras. Elle pousse un petit cri, rit doucement. Il la porte jusqu'à sa grande chaise pivotante en cuir, au dossier haut, en bois sombre, légèrement inclinée sous une lampe à abat-jour vert. Il la dépose délicatement sur la chaise et éteint la lampe. La seule lumière provient de l'immeuble en face.
The office is dark.
L'aria de Caruso s'intensifie.
Caruso's vesti la jubia aria is swelling, and the education of Ruth Snyder is progressing in the chair.
L'éducation sexuelle de Ruth Snyder commence dans cette chaise, tandis que la fumée bleutée de la cigarette monte lentement. Cette étrange et sauvage initiation au sexe intellectuel la submerge. Quand Caruso atteint le final de l'opéra, la chaise est devenue pour Ruth un symbole de plaisir absolu. Guidée par la passion, emplie d'amour, elle obéit à Albert, quelles que soient ses demandes, aussi bizarres soient-elles, sans poser de questions. Intérieure nuit, 3h du matin.
Pendant 6h, j'étais attendue.
Je savais que tu comprendrais.
Non, je ne peux pas comprendre. Tu aurais dû rentrer à 21h, comme c'est noté dans ton fameux agenda.
C'est comme ça, Ruth. L'augmentation du tirage exige plus de pages et plus de maquettes.
Tu imagines seulement ce que j'ai pu ressentir tout ce temps, allongé sur le lit, à t'attendre.
Mais oui, tu étais impatiente. Comme une prostituée. On est mariés maintenant.
Je commence à comprendre car je joue dans ce mariage.
Le second rôle, ma chérie. Le second rôle.
Le 9 mars 1916, le président Wilson ordonne à l'armée américaine de se déployer à la frontière mexicaine après le raid de Pancho Villa à Columbus, Nouveau-Mexique.
General Pershing meets General Foch. Allied coordination begins.
Le général Pershing rencontre le général Foch. Ruth, visiblement enceinte, regarde les actualités de guerre sur écran géant.
The Yanks are coming.
Les troupes américaines débarquent et avancent dans la boue et les ruines. Ruth berce son ventre rond.
Meuse Argonne ablaze.
Le champ de bataille de Meuse Argonne s'embrase d'explosion. Albert feuillette distraitement un numéro de motorboating.
Massive offensive. 1.2 million Americans drive back the German lines.
À mesure que Ruth prend du volume, les États-Unis grandissent sur les champs de bataille.
Boys, I want to say a few words to you before we go ashore.
1,2 million d'Américains remportent la bataille de Meuse Argonne.
Armistice signed. Bells ring out, flags fly. The Great War is over.
Des foules éclatent de joie dans les rues. Des drapeaux s'agitent. Des confettis pleuvent du ciel. Les cloches sonnent. La paix est là. Le jour de la fin de la guerre. 11 novembre 1918. Une petite fille naît.
Un enfant a besoin d'une mère et d'un père.
Je suis d'accord.
Un enfant ne doit pas souffrir.
Ruth, si tu...
Quand le père traite la mère comme un meuble.
S'il te plaît, Ruth. Ruth, ton complexe d'infériorité est devenu une maladie. Tu en es obsédée. Ça te dévore. Il faut que tu vois un médecin ou que tu suives un traitement en clinique psychiatrique.
Je ne suis pas folle.
Bien sûr que non. Mais ils savent traiter une obsession. Toute forme d'hystérie qui...
Je ne suis pas folle.
D'accord. Calme-toi. On en parlera posément quand je rentrerai.
Tu t'en vas?
Bah, tu sais bien que oui.
Bah, tant mieux, parfait.
Première étape, Ohio, pour voir Jack Dempsey affronter Jess Willard à Toledo pour le titre de champion du monde poids lourd. Tu te souviens de Jess Willard? Tu l'as rencontré chez Lucha House. Tu te souviens?
Non.
Je vais parier sur Dempsey. Il a 13 ans de moins que Willard.
Comme moi. Moi aussi, j'ai 13 ans de moins que toi.
Justement. C'est pour ça que je mise sur Dempsey. Le vieux va se faire écraser par la jeunesse.
Ziegfeld Follies are in full swing.
Les Ziegfeld Follies battent leur plein.
The spotlight hits Ginger, a dazzling beauty.
Le projecteur éclaire Ginger Lee, une beauté éclatante. Ruth est dans le public, captivée.
Thank you.
Ruth frissonne, persuadée que la grande artiste chante uniquement pour elle. Les paroles parlent d'une femme nymphomane, esclave de son homme et de sa révolte.
Yeah, the same thing as always. Of course, why would I change?
Bonsoir.
Bonsoir. Je t'ai remarqué tout à l'heure. Tu laissais pas les mecs t'approcher. T'es lesbienne?
Non.
Mais tu détestes les hommes.
Alors tu détestes ton mari.
Eh bien, moi aussi.
Je t'offre un verre. Si tu me laisses t'offrir un.
Ok, tu bois quoi?
Moonshine, please.
Ok, pareil pour moi. Je m'appelle Ginger.
Moi, c'est Ruth.
It's strong.
Yeah, it's strong, it's good.
It is.
It is good.
Strong is good, Ruth.
Oh, I haven't had that in a long time. But, comment tu as deviné ce que je vis?
C'est évident. C'est ce que vivent toutes les femmes. Moi, j'aimerais tuer mon mari.
Non, moi aussi.
Je ne plaisante pas. Je parle vraiment de le tuer. Il court après les filles, mais il fait une crise dès qu'un homme me regarde. Il est tout le temps sur la route, libre comme l'air. Et moi, je reste seule à devoir me satisfaire.
Vous avez des enfants?
Non, Dieu merci.
Bah alors quitte-le.
Pas tant qu'il paie les factures. D'après les statistiques du ministère de la Santé et avec son hygiène de vie, il ne devrait pas dépasser les 50 ans. Il me reste 11 ans à tenir avant de toucher son assurance vie. Il vaut combien ton mari à toi?
Je sais pas.
Renseigne-toi, Ruth. On mérite bien un salaire pour tout ce qu'on subit avec ces brutes. Les humiliations, les frustrations.
Je bois à tes mots.
Cheers, Ruth.
Cheers.
Si une plante ne peut pas s'épanouir, Ruth, elle meurt. Et une femme aussi.
Albert est assis, en train de lire. Ruth est debout, les bras croisés, frustrée.
Ruth, que puis-je faire pour arranger notre relation?
Traitement légal.
Ok. Je commence dès maintenant.
Encore des mots.
Non, je suis sérieux. Je vais t'emmener voir le premier combat à $1,000,000 à Jersey City. Tu verras le champion en action.
On est égal, Albert.
Bon sang, n'importe quel homme donnerait son œil droit pour voir ce combat. N'importe quel homme.
Tu sais bien que je déteste la violence.
Thank you.
Ruth regarde depuis les gradins pendant que Dempsey affronte Firpo. La foule rugit quand Firpo projette Dempsey complètement hors du ring dès le premier round. Albert a misé $15,000 sur une victoire par KO de Dempsey. Au Polo Grounds, quand Firpo éjecte Dempsey hors du ring dès le premier round, Albert frôle la crise cardiaque. Pendant les 60 secondes de repos entre les rounds, Albert décide de se suicider. Et durant ces 60 secondes, l'homme avec qui il a parié lui demande, provocateur, s'il veut rajouter de l'argent sur Dempsey. Albert n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il va se tuer.
Many of the victims are left with nothing. No protection, no insurance.
Tu imagines ces pauvres types?
Qui ça?
Ces noirs, sans contrat d'assurance.
Et pourquoi les types du Ku Klux Klan portaient-ils ces affreuses cagoules blanches?
Pour cacher leur sale tranche de pecnos racistes.
C'est horrible. Une maison brûlée, pas d'assurance. On a une assurance, nous?
Bien sûr, ma chère. J'ai même une assurance vie. $45,000. Avec une clause de double indemnité.
Une double quoi?
45 000 pour toi si je meurs accidentellement.
Charlie's.
Le barman désigne Ruth à Judd Gray, debout seul dans un coin.
Bonsoir, je suis Judd Gray. Je m'appelle Judd Gray.
Moi, c'est Ruth Snyder. Asseyez-vous, je vous en prie. Moi, je bois du gin.
Elle regrette aussitôt ce rendez-vous arrangé par Ginger. Il est aussi excitant que le dernier porteur de cercueil.
Cheers. Je viens de lire les hommes préfèrent les blondes. De Anita Luce. Elle avait entièrement raison. Moi aussi, je préfère les blondes. Comme vous.
Et que faites-vous dans la vie, Mr. Gray?
Je suis vendeur.
Et vous vendez quoi?
Des gaines et des corsets.
Elle sourit, amusée par sa modestie.
Et vous, que faites-vous dans la vie, Mademoiselle Snyder?
Madame Snyder. J'obéis à mon maître. So this is your office.
You like it?
So professional.
Jed allume la lumière.
On en a pas besoin.
Il l'éteint.
Oh, j'ai mal à la nuque.
Vraiment? Sur la chaise?
Évidemment.
Je ne l'ai jamais fait sur une chaise.
Tu n'as jamais vécu alors.
Ruth, tu es ma reine, ma tendre, ma chère, my little sweetheart.
In the deserted dark office illuminated by moonlight, their ill-fated affair began.
Dans le bureau éclairé par la lune, leur liaison maudite commence.
Through the window, the full moon could be seen.
Par la fenêtre, la pleine lune brille.
Their silhouettes moved as blue smoke from her cigarette curled upward.
Leur silhouette bouge tandis que la fumée monte.
The eclipse began.
L'éclipse commence. Elle devient Albert. Elle ordonne, il obéit, comme elle obéissait autrefois à Albert. Elle ne se contente pas d'atteindre l'égalité, elle la dépasse, elle devient le maître.
The moon was blotted out in total eclipse.
La lune s'éclipse totalement.
The office plunged into darkness.
L'obscurité tombe.
The thin ring of light around the black moon hovered over the lovers.
Un fin anneau de lumière autour de la lune noire plane au-dessus des amants. Elle traite Albert comme un meuble. Lorsqu'il parle, elle l'ignore.
Oh, what are you dressed up like that?
Elle devient plus belle, cesse de bouder. Même sa démarche a changé. Albert soupçonne un amant, mais il sent qu'il ne s'agit pas seulement de sexe. Ruth est transformée. Quand il lui en parle, elle le repousse.
Thank you.
Il n'y a aucun bruit dans la maison, ni dans la rue à l'extérieur. Elle fait sortir Judd Gray de la chambre d'amis et le conduit dans le couloir plongé dans l'obscurité. Il porte de longs gants en caoutchouc et tient un contrepoids. Ruth porte du chloroforme, un fil de fer, un mouchoir et de la ouate. Il se glisse dans la chambre à coucher. L'horloge indique 3 heures du matin. Albert se redresse. Il commence à lutter pour sa vie. Judd écrase le poids sur le crâne d'Albert. Le sang jaillit. Albert attrape la cravate de Judd. Le poids tombe. Ruth le ramasse et assomme Albert. Pourtant, il ne meurt pas. Judd grimpe sur lui, l'immobilise. Albert repousse ses mains. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Il voit Ruth. Albert résiste, frappe Judd. Ruth lui attache les mains et les pieds. Elle l'étrangle avec un fil métallique.
Il est mort. Dieu merci.
Puis Albert se met à bouger.
Il se battait pour vivre, Mr. Gray.
Oui.
Vous le mainteniez pendant qu'elle l'étranglait.
J'étais perdu. Je n'étais pas moi-même. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'aurais jamais participé à quoi que ce soit de violent sans elle. Jamais. Mais elle avait ce pouvoir sur moi. Elle me disait quoi faire. Et je le faisais.
C'est pour ça que vous appelez l'homme pantin ?
Oui.
Et vous ? Vous l'appelez la femme de marbre ?
Oui.
Pourquoi ?
Froide. Elle était froide. Froide comme du granit. Mais, Dieu merci, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Le médecin légiste a dit qu'il avait été étranglé. Cela signifie que je suis innocent, n'est-ce pas ? Hein ? N'est-ce pas ?
Il pleut à verse lorsque Ginger achète le Evening Journal à un kiosque.
Hello, sir. I'll take an Evening Journal, please. There you go, thank you.
Elle ne lit que le début de l'article. Elle se sent paralysée.
Editor found murdered. Mrs. Snyder was hysterical most of the time.
Une semaine avant le procès, matin, midi et soir, les journaux ressassent les crimes les plus brutaux des 100 dernières années liées au sexe, juste pour aiguiser l'appétit des lecteurs. Les gens ont du meurtre et du sexe au petit déjeuner, au dîner, au souper après le théâtre, et même au lit. Ruth Snyder cache de nombreux rendez-vous romantiques, monte les époux les uns contre les autres, les employés contre leurs patrons, les hommes contre les femmes. Deux jours avant le procès, les enfants jouant aux policiers et aux voleurs préfèrent être Ruth Snyder plutôt que Jesse James. Et ils jouent à s'asseoir sur une chaise. Le jury est entièrement masculin. Ruth Snyder entre, escortée, par un officier. Le brouhaha voyeuriste de la salle d'audience se mue en un silence pesant. Hommes et femmes sur le bord de leur siège entendent les claquements nets des escarpins en cuir verni de Ruth, faisant écho à la tension électrique ressentie par tous.
J'ai tué un homme. J'ai assassiné mon mari, messieurs. Je pourrais m'agenouiller, supplier, exprimer des regrets, mais la ligne de défense de mon avocat, un homme, est de prétendre que j'ai assassiné sous le coup de la folie. Albert aussi avait l'habitude de dire que je suis folle. Je ne suis pas folle. Pour échapper à la chaise, vous voulez que je renonce à être considérée légale de l'homme. Je refuse. Jugez-moi comme un homme.
Des femmes envahissent la salle de rédaction de l'Evening Graphic. Parce que ses éditos sont contre Ruth Snyder. Elles attaquent le rédacteur en chef, saccagent le bureau, brisent les vitres. Et tandis que Ruth et Judd se battent pour leur vie, la foule devant le tribunal grossit chaque jour, devenant de plus en plus hostile, jusqu'à atteindre des sommets de folie. La police montée charge des hommes et des femmes qui s'affrontent avec des pancartes pour ou contre Ruth. Le sang coule, les mâchoires sont brisées. Un canon à eau, sirène hurlante, fonce vers le tribunal et disperse la foule. Les manifestants sont arrêtés manu militari. Des pancartes déchirées jonchent la rue mouillée. Mort à la pute, ne brûlez pas Sainte Ruth, œil pour œil. La peine de mort est un meurtre. Des clochards fouillent les décombres à la recherche de hot-dogs et hamburgers qu'ils mangent. Et plusieurs chiens aussi.
La nuit dernière, j'ai fait le plus étrange des rêves. J'étais assise au milieu d'un cercle d'hommes. Je suis assise et je pleure. Ils ne voulaient pas entendre mon plaidoyer. Ils ne veulent pas entendre mon histoire. Ensuite, ils essayaient de construire une maison, brique par brique. Oh mon Dieu, tu es le seul à pouvoir me libérer. Parce que je suis coupable. Coupable comme seule une femme peut l'être. Cette nuit, il avait des voix dans le couloir. Ça m'a réveillée. Je ne comprenais pas tous les mots. La porte de ma cellule s'est entrouverte et la tête d'Albert est apparue dans l'embrasure.
C'est simplement comme ça.
C'est simplement comme ça.
Certaines choses ne changeront jamais.
Certaines choses ne changeront jamais. Puis il a disparu.
La frappe, bourdonnante et sifflante, parcourant ses veines. Son corps se tend en avant, bras, jambes, gorge et mâchoire prenant une teinte rouge brique. Une fumée bleue s'élève de sa jambe nue alors que le courant s'interrompt. Au deuxième choc de 2100 volts, traversant son corps, Tom Howard prend la photo. Le courant s'arrête. Le bourdonnement cesse. Le docteur ajuste son stéthoscope pour écouter un battement de cœur. Sa main droite est serrée, les doigts pointés vers le haut. La main tourne lentement vers le bas. Une nouvelle décharge la frappe. Six minutes après être entrée dans la chambre de la mort, Ruth Snyder est déclarée morte à 11h07. Les sangles de cuir noir, huilées et serrées comme un corset, sont débouclées. Une civière à roulettes avec plateau en porcelaine est amenée à ses pieds. L'eau de l'électrode humide ruisselle sur sa jambe droite. L'électrode est retirée. Un jarret effroyablement brûlé. Une cloque violacée, de la taille d'une aubergine, marque son mollet. Le corps de Ruth Snyder fut roulé le long d'un couloir froid en pierre, faiblement éclairé, jusqu'à la salle d'autopsie de la prison, où un employé écoutait de la musique à la radio, tout en terminant un sandwich Denver. Le corps de Ruth Snyder fut placé sur une dalle de pierre. Le corps de Judd Gray fut roulé le long du même couloir faiblement éclairé, jusqu'à la salle d'autopsie, est déposé sur une dalle de pierre à côté de celui de Ruth Snyder. La nouvelle chanson à la mode à la radio était Crazy Rhythm. Le baptême du premier panneau électrique animé des États-Unis, installé autour du sommet du bâtiment du New York Times sur Times Square, affichait Ruth Snyder électrocutée sur la chaise.
The Chair, New York 28, d'après Samuel Fuller, avec Kate Moran, Kester Lovelace, Matthew Luray, James Poak, Elizabeth Watlett et Christophe Dillis. Narrateur, Augustin Guillot. Musique originale, Augustin Viard. Coordination, Aurélie Charron et Inès Dupéron. Prise de son, Frédéric Changenet, Pierre Henry et Pierre Langlais. Mixage et spatialisation, Frédéric Changenet et Guillaume Ledu. Un atelier de création radiophonique de Ludovic Chavarro, réalisé par Céline Terce pour l'expérience. Remerciements à Christa Fuller. Ce film sonore est dédié à Bernard Terce et Alexandra Crespan.